Maintenant. On parle de santé mentale, puis c'est quand même un sujet important, c'est un sujet délicat, et c'est un sujet où souvent le vécu des patients et des gens qui sont atteints de diverses maladies, qui font partie de la catégorie des maladies de santé mentale, vont souvent aider à une meilleure connaissance du déclenchement de ces maladies-là et de l'arrivée, est-ce que ça se guérit, est-ce que ça se contrôle et comment ça se passe. Mon invité est Beauceron, il est de la Guadeloupe en Beauce, et il vient de lancer son livre qui s'appelle « Normal à trouble mental ». Alors, pour en parler avec nous, il s'appelle Anthony Clich et il est au bout du fil. Bon matin, Anthony.
Bon matin, M. Dupont et tous les auditeurs.
Ben, Anthony, content de te parler. Donc, tu as lancé un livre, toi, parce que tu as eu des années extrêmement difficiles et ça, on remonte pas à si loin. Et toi, tu parles de la maladie mentale et dans ton cas, le déclenchement serait causé par un événement très précis.
Oui. Dans le fond, j'ai commencé comme dans une vie totalement normale, d'une enfance très stable. Puis, à un moment donné, je me suis engagé comme pompier. J'ai fait mon cours au CNDF à Québec. Puis, je me suis engagé comme pompier au sein de la Guadeloupe à ce moment-là. Puis, j'ai vécu les événements de Lac-Mégantic là, qui ont été bien connus au Québec. Puis, c'était l'événement, un des événements qui a fait déborder le vase, là.
T'as quel âge à ce moment-là?
Ça, c'était en 2013, les événements. Fait qu'on recule, j'avais 21 ans à ce moment-là.
OK. Donc, t'as 21 ans et avant les événements de Lac-Mégantic, t'as pas d'épisode de santé mentale. Toute ta vie est à peu près normale, comme à peu près les jeunes hommes de ton âge à ce moment-là.
On peut dire que je me fondais bien dans le décor. J'avais vécu des deuils difficiles en étant plus jeune, puis ça avait resté. Fait que c'est pour ça que je dis que Lac-Mégantic a fait déborder le vase, parce que je pouvais déjà avoir des problèmes à ce moment-là, mais c'était pas connu.
OK. Est-ce que, je suis obligé de te poser la question, Anthony, est-ce qu'il y avait de la consommation de stupéfiants à cette période-là?
À ce moment-là, aucune consommation de stupéfiants. J'étais un bon buveur, là, on peut le dire, là, mais... Je veux dire, ça m'empêchait pas de... Ça me faisait pas perdre de contrôle, là. J'ai toujours été raisonnable, là, pour qu'il y ait de l'alcool, là, à ce moment-là.
Donc, aucune drogue?
C'est vrai qu'il y avait des périodes d'accès, mais pas de drogue.
Je comprends très bien. C'est répond clairement à ma question. Là, Lac-Mégantic arrive, t'es appelé sur les lieux là-bas. C'est évidemment une tragédie monumentale. Comment ça se découvre après ça? Comment ça débute, la maladie mentale, après ça?
Comment ça s'est réveillé en dedans de moi? C'est vraiment que j'ai devenu endurci. Je me foutais un peu de tout. Tu sais, on s'enfarge un peu dans les fleurs du tapis dans plusieurs sujets. Puis moi, après ça, ben tout ce qui est... Tous les petits problèmes des gens, ça m'intéressait plus. Puis il n'y a pas de petits problèmes en passant, hein. Tu sais, un petit problème pour moi, ça peut naître un gros pour un autre. Mais je m'intéressais plus aux autres qui avaient à dire, tout ça. Puis j'étais dépassé, là. J'étais rendu dans mes pensées tout le temps. Puis j'étais rendu insensible à la mort. Puis tous les événements qui pouvaient arriver, je pensais avoir tout vu, tout connu, là. C'était comme ça que je me suis rendu compte que ça allait moins bien. J'arrivais plus à rire, j'arrivais plus à pleurer. J'étais bloqué de mes émotions.
Est-ce que il y a des gens autour de toi qui se rendent compte que tu es en train de changer à cause de ça?
C'est clair que ton entourage, si tu es proche d'eux, c'est clair qu'ils voient quelque chose qui change, là. Mais ils n'arrivent pas à mettre le doigt sur le bobo, comme on dit. Puis, tu sais, ils te laissent ta liberté aussi. Puis, c'est un sujet vraiment délicat, je comprends. Que d'aller chercher de l'aide pour que ça vienne de nous-mêmes en partant. Puis moi, c'est en 2016, c'est 3 ans après les événements, là, j'étais suicidaire au coton. Fait que j'ai décidé d'aller chercher de l'aide en psychiatrie, là. Puis à ce moment-là, bon, ben, on me gardait pas en établissement. Fait qu'on pourra en parler plus tard dans la revue, là, des tournures des événements, parce que c'était brassé plus tard aussi, là.
OK. Donc là, c'est ça. Là, ça va vraiment pas bien. T'as des idées suicidaires. Là, il y a pas de rupture amoureuse qui coïncide avec ça. Puis il y a pas de début de consommation non plus. Tout est resté... C'est uniquement mental que ça se passe?
La rupture amoureuse avait eu lieu peut-être 2-3 ans avant que j'aille chercher de l'aide, là. Okay. Fait que ça, c'est peut-être de l'accumulation. Ça pouvait faire partie de l'accumulation aussi, là.
OK. Mais ça a été un autre élément qui est venu en rajouter par-dessus tout ce que tu vivais.
Exactement.
Bon. Là, toi, par toi-même, tu vas chercher de l'aide pour tes idées, pour essayer de combattre tes idées suicidaires?
Oui, par moi-même, là. J'ai toujours été un très bon vivant qui aime la vie puis qui encourage les autres. Mais tu sais, à ce moment-là, ça a venu clair. Puis on m'avait enseigné dans mes formations que lorsqu'on avait un plan clair pour en finir, ben, on était rendu à la dernière étape. Là, fait que c'était le temps que j'allais chercher de l'aide.
Là, il arrive un moment également dans ta vie où là, tu fais face à des accusations parce que là, ta situation mentale se détériore encore, et là, tu vas causer des actes de vandalisme, entre autres, sur des équipements d'une station de radio, tu vas être... Qu'est-ce qui se passe là, à ce moment-là? Comment la crise dépasse les idées suicidaires, puis ça devient pour s'en prendre à autrui?
Oui. Ça, à ce moment-là, c'est un événement qui a été isolé par rapport à mes actes, parce que je pensais qu'il y avait un complot dans le fond. Je pensais qu'on était enregistré et que tout le monde nous entendait. Fait que ça a devenu du délire. Puis d'où ça part, ça, je pense, c'est la solitude. Fait que je pense que c'est bien l'actualité parce que là, je remercie qu'on ait le droit à un visiteur. Ça nous aide grandement. Puis c'est le strict minimum qui doit nous être autorisé d'avoir un visiteur. Parce que la solitude, là, c'est pas possible comment que ça peut mener à des actes irréparables. Parce qu'on vient dans nos pensées, on n'a plus d'échange avec les autres ne nous voient plus aller si on est en train de changer. C'est un danger public d'isoler les gens totalement. Là.
Mais pour ta famille, tes amis, c'est eux qui te laissent tomber ou c'est toi qui arrêtes de les appeler?
Je te dirais que c'est un mélange des deux, oui. Les amis, peut-être dans nos discours qui sont moins concordants avec ce qui était à l'époque, ben eux autres, ils peuvent avoir peur, ils peuvent plus savoir quoi faire. L'entourage devient vraiment impuissant, là. S'il y a un manque de connaissances professionnelles ou un manque de connaissances d'expérience de vie, ils voient pas ça aller, puis ils savent pas où ça va s'en aller non plus, puis ils savent pas quoi faire. Ils veulent pas trop s'impliquer dans le problème. Puis de mon côté, ben moi, c'est vrai que je m'isolais beaucoup, puis... À force de m'isoler, t'as moins envie de les appeler. Puis c'est une mauvaise roue, là.
Anthony, t'entendais des voix, tu t'imaginais des scénarios que t'étais enregistré et suivi. Aurais-tu pu en venir à t'en prendre à d'autres, à du monde, à commettre des gestes qui sont irréparables?
Moi, de mon côté, j'ai jamais entendu de voix, par contre.
OK.
Je me suis toujours dirigé... avec mes intérêts, par contre. C'est mes intérêts, à ce moment-là, j'écoutais beaucoup de vidéos concernant la conspiration, si ça peut vous dire quelque chose, tout le monde, là. J'écoutais des vidéos sur Internet, puis à un moment donné, c'est là que le délire a embarqué, parce que je me nourrissais seulement de ça, puis je pouvais pas en parler avec personne, parce que, justement, j'étais isolé du reste de ma famille, où les gens, ça leur intéressait pas de parler de mes sujets. Fait que là, à un moment donné, c'est là que le délire a embarqué, là.
OK. Est-ce que... donc, là, tu te ramasses devant les tribunaux parce que tu as commis des actes qui ont amené ton arrestation. Bon, tu seras complètement dégagé des accusations desquelles on a contre toi. En tout cas, tu seras pas retenu criminellement responsable de ça. Mais est-ce que, à travers ça, avant un verdict de la Cour, est-ce que, là, l'aide a envie d'embarquer ou si... l'aide psychologique n'est pas au rendez-vous, pas pantoute, à nulle part?
À ce moment-là, moi, j'ai resté dans mon scénario pendant 2 semaines. Puis, parce que j'étais à la prison de Saint-Ville. Fait que là-bas, il n'y a aucun suivi psychologique ou quasiment pas. Donc, c'est difficile de s'en sortir. Puis ensuite de ça, ils ont réalisé que ma place était en psychiatrie. Puis c'est à l'hôtel Duc de Lévis que ça s'est réglé. À force de rencontrer différents intervenants, ils m'ont fait réaliser que j'étais pas enregistré, que personne ne me voulait de mal. Puis ensuite de ça, j'ai rencontré un psychiatre que j'ai encore aujourd'hui depuis l'époque. Puis on a bâti un bon lien de confiance ensemble. Il est très humain. une approche professionnelle aussi, puis ils donnent des bonnes explications là, pour clarifier l'histoire. Là.
Est-ce que tu es encore sous médication? Est-ce que c'est une médication que tu prendras toute ta vie? Parce que là, tu as eu une vie normale, tu as eu un épisode qui a quand même duré quelques années, qui ont été extrêmement difficiles. Peux-tu dire aujourd'hui que tu es de retour à la vie normale?
Oui. On s'est rétabli avec un suivi, là, vraiment un long cheminement. Il y a eu plusieurs ateliers sur l'estime de soi, la confiance en soi aussi, puis on a bâti un plan d'intervention avec une travailleuse sociale. C'est dans le fond d'avoir un suivi, tous les risques qu'il pourrait y avoir. Mettons, je perds mon emploi, ben tout de suite consulter la famille, consulter une travailleuse sociale pour être capable d'établir un plan à partir de là. Là. C'est pour pas être laissé dans le néant puis repartir. Là. Ensuite de ça, j'ai une médication à prendre.
Oui.
Puis je la prends sur base régulière. Puis ça, on a tout le temps une entente avec mon psychiatre pour voir les effets secondaires et tout ça, si ça va bien. Là.
Est-ce que c'est la même... Tu dis, j'ai peur de perdre mon emploi parce que ça pourrait avoir des effets sur l'équilibre que j'ai actuellement. C'est-tu la même affaire de te faire une blonde? Parce que je comprends que tu es encore toute seule, tu as besoin de visite de temps en temps, mais est-ce que si tu te refais une blonde puis ça marche pas, c'est-tu une crainte que tu as ou si tu cherches beaucoup pour avoir... Comment ça se passe, ta vie amoureuse?
Ben, la vie amoureuse, si ça marche pas avec une blonde, on va trouver une brune.
OK.
non, sérieusement... c'est vrai que ça apporte des complications à ce niveau-là, parce que la personne, elle doit être informée. C'est bien important d'informer ma prochaine blonde de tout ce qui s'est passé pour pas rien y cacher, pour bâtir une relation solide. Puis qu'elle embarque avec moi aussi, ça c'est une autre étape, là, tu sais, qu'elle décide de s'engager avec moi, connaissant les contraintes que j'ai. Ça c'est vrai que ça peut apporter des difficultés en amour, là. Mais bon, j'ai un gars qui a bien confiance à la vie, puis je vais prendre ça comme ça vient.
Là, t'arrives à la trentaine?
J'ai 28 ans.
T'as 28 ans, c'est ça. OK, bien, Anthony, ouais. Et là, dans ton livre, donc, de la vie normale, tu nous racontes tout ce cheminement-là avec bien des détails, entre autres, sur tes épisodes là, de santé mentale qui ont été très difficiles.
Je vous embarque un peu dans mes pensées à ce moment-là, dans toutes les actions qui ont été commises. On découvre que la santé mentale, c'est très fragile. La ligne est très mince entre quelqu'un de normal, si on peut dire ça, puis quelqu'un qui a un trouble mental. Parce que ce soit la dépression, que ce soit une psychose ou quelque chose de même, on n'est pas à l'abri de ça, personne. Puis j'en parle vraiment clairement, puis dans les moindres détails de tout ce qui a été médiatisé aussi. Puis j'apporte des solutions même qui pourraient être... projeter dans le futur avec les psychiatries, parce que aller chercher de l'aide, là, je veux pas décourager personne aujourd'hui, je veux encourager tout le monde à aller chercher de l'aide par le moyen qui va lui convenir, mais c'est vrai que le système est pas parfait, là. Il y a des graves répercussions à ça, là.
T'as été remis à toi-même souvent là-dedans. À quel moment t'as réalisé que t'avais un problème? Parce que souvent, là, on a les deux pieds dedans puis on le réalise pas, puis c'est comme ça qu'il arrive des tragédies majeures. Toi, à quel moment tu réalises que t'as vraiment un petit divan? Ça va pas dans ma tête, là?
C'est lorsque les pensées vont trop vite, lorsque t'es plus capable de rester en place, puis ensuite de ça, quand les idées... ben moi, c'est... De mon cas, c'est vraiment les idées suicidaires qui étaient le pire, le plus grand danger. Fait que à ce moment-là, j'allais chercher de l'aide aussitôt que ça allait trop loin, là, que j'étais sur le bord de passer à l'acte. Ben, au lieu de passer à l'acte, je prenais mon auto ou j'allais prendre une marche puis je me rendais en psychiatrie. J'allais m'enfermer moi-même.
T'as commis des bons gestes. Il y a bien du monde qui n'ont pas ce réflexe-là et souvent, il est trop tard quand les proches viennent pour agir. Alors, Anthony, bon courage. Lâche pas. Le livre Normal à trouble mental, à quel endroit on peut retrouver ça?
On peut le retrouver à la librairie Select de Saint-Georges au 418-228-9510.
Okay, c'est à l'endroit où il est distribué. Bon, ben merci beaucoup, Anthony, puis lâche pas. Bon courage.
Ben merci beaucoup.
Au revoir. Anthony Clich, donc jeune homme dont la vie était tout à fait normale. Des certains événements ont agi comme élément déclencheur. Vous le savez, la santé mentale, c'est pas une science qui est parfaite et qui est exacte. Je trouve que on vient de réaliser à quel point c'était normal de peut-être s'occuper des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Parce que ça crée des problèmes de société qui sont majeurs. Et il y en a beaucoup. Vous savez, je disais encore à quelqu'un en fin de semaine, écoute, des sans-abri, là, en réalité, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans le sens où, à la base de quelqu'un qui va se retrouver dans la rue ou sans-abri, il y a une maladie mentale sérieuse qui lui fait perdre tous ses repères, où tout le filet social mis en place n'est plus là pour le capter parce qu'il ne le voit pas et il est pas capable d'en avoir la perception de cette société-là qui pourtant est là pour l'aider.
C'est quand même dur à diagnostiquer la santé mentale.
Ah oui, c'est difficile. Certain.
Un bras cassé, c'est assez évident, là. Il est cassé.
Ouais.
Mais santé mentale.
Et même quand ton bras il est cassé, là,
c'est large.
On va essayer de te le mettre dans le plâtre, puis on va te renvoyer chez vous, puis essaye de t'arranger tout seul.
Mais il va se réparer.
Il va se réparer. Mais dans ta tête,
il va se réparer.
C'est que dans ta tête, si on se renvoie chez vous, c'est comme si tu prendrais ton bras cassé puis tu le refrapperais après le mur sans arrêt. C'est que on n'a pas les moyens pour t'aider sur une base stable en santé mentale. Tu sais, les gens qui font des épisodes de crise, on va les porter au CHUL, on va les porter dans des endroits spécialisés, puis on n'est pas en mesure de les garder, puis de les suivre, puis de les traiter. Tu sais, il y a un gars qui m'écrivait dernièrement, à qui j'ai parlé, qui avait des épisodes de suicidaires très importantes, oui. Puis qui disait vouloir de l'aide, puis qui était allé, il s'était présenté par lui-même, puis on lui a dit, oui, on a un psychologue qui va t'appeler. Il va t'appeler demain. Tu sais, une semaine après, il l'avait pas appelé encore, pour X raisons. Ben là, le problème, c'est pas mieuté, là. Tu sais, c'est...
Je sais pas ce qui est advenu de tous les lits qu'on a fermés en santé mentale dans les dernières années.
Ouais.
Ben, ils sont restés
là. Dans les trois dernières années. Non, ça a fermé. Il y en avait juste plus. Il y avait plus ce service-là qui était offert. Puis eux, ils gageaient que ça allait mieux parce qu'ils allaient réinvestir, par exemple, dans les rues, dans les patrouilles, dans des...
Ouais. Mais il y a eu beaucoup de ça qui a marché pareil, là. Tu sais, il y a bien du monde qui ont des problèmes, mais qui sont capables de se gérer eux-mêmes. Tu sais, je pense à mon monsieur que je croise tous les matins. Là. Je connais pas tous les tenants et aboutissants de sa vie, mais tu sais, il est dans son monde, il se parle, il ramasse, fouille un peu des poubelles, il ramasse ses canettes, mais il a pas de l'air mal pris, il est pas dévêtu, il prend l'autobus tous les matins, il va faire son tournée au centre-ville, il doit avoir un endroit où rester, là, c'est pas loin d'ici. Tu sais, il semble être dans son monde, c'est peut-être quelqu'un qui aurait dû être en institution, mais en même temps, il semble bien évoluer dans la société malgré ses différences.
Ben c'est bizarre, mais on s'habitue à tout. On s'habitue vraiment à tout en tant qu'être humain. Puis lui, ben, il s'est probablement habitué à sa vie dans la rue. T'sais. Pour est-ce lui, c'est ça, sa normalité.
Mais tu sais, l'avoir bizarre, enfermé à Robert Giffard, est-ce qu'on l'aurait aidé? Pas vraiment.
Mais c'est plus Élie quand je te parle.
Mais
c'est mettons que tu as besoin d'un suivi maintenant, des médicaments ou encore d'une prévention face à un comportement, ben c'est là où ça se passait. C'est pas nécessairement d'être interné. Là.
Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec Lily à Robert-Giffard?
Il y a des étages de fermé, il y en a d'autres qui sont.
Mais fermé, la bâtisse est vide.
Oui.
Mm-hmm. Ah, ouais. Ah, ouais. Tu sais, c'est peut-être ça. T'sais, si on devait réinvestir, on l'a, la bâtisse. Puis c'était la maison des fous, c'était là. Tu sais, on dit
ouais,
pas ça. Même, là.
Non, c'est ça.
On dit plus ça. Là. Non, je sais, on dit pas grand-chose.
Non,
c'est vrai Giffard. Qu'on disait ça avant, la maison des fous. Puis il n'y a pas si longtemps. Hein?
Je sais, oui. On était venus pour me débarquer là.
Ah oui? Oui,
puis t'as mal choisi m'engager. Fait que j'ai été correct. Mais.
Cette institution-là. Ça les protégeait probablement, ces gens-là, contre eux et contre la société.
Moi, je pense que ça protège les cas lourds.
Mais est-ce qu'on peut les ramener dans le droit chemin?
Pas ces cas-là. Tu sais, il y en a encore du monde à Robert-Giffard, là. Tu sais, il y a encore des clients, là, qui sont là.
Oui,
mais tu sais, c'est impossible de sortir de là,
non,
là.
C'est ça.
Tu sais, il y a des gens qui sont dans... Tu sais, c'est de la...
capitonnée. Puis...
Mais oui, c'est
moi,
j'étais
contente d'entendre Anthony Clich.
Pourquoi?
Parce que je me rappelle mes années en Beauce où je parlais de ce gars-là qui sauvait des hôpitaux psychiatriques, puis qu'on le cherchait. Il s'est sauvé à plusieurs reprises.
Hey, puis ce que j'ai
à Saint-Georges, il était sorti nu. Puis,
Oui, il a couru tout nu.
Puis c'était tout le temps des avis de recherche. Fait que quand j'ai vu qu'on allait y parler, je me suis dit, OK, on a fait un grand pas vers l'avant. Puis en toute honnêteté, je croyais pas. Là.
C'est fantastique d'y avoir. Excuse-moi, je viens de déclocher.
J'ai oublié de vous le dire, moi, je le savais. Tu sais, il y a eu tous ces épisodes-là où
je me souviens d'avoir dit quelques fois, là, cette histoire-là.
Oui, on le cherchait tout le temps, il sauvait toujours. Même ses parents le cherchaient, puis il n'y avait pas de moyen de le retrouver à multiples reprises. Ses parents n'ont pas été capables de le retrouver.
Et là, aujourd'hui, vous l'avez entendu, il est préposé aux bénéficiaires depuis un an déjà.
C'est fantastique comme dénouement.
Imaginez-vous le chemin de croix qu'il a fait.
Mais tu sais, parce que là, vous avez entendu des histoires. Tu dis, toi, qu'il sortait de l'hôpital, il courait dehors tout nu.
Je le couvrais, là, j'étais journaliste en Beauce.
Des avis de recherche, là.
Ouais.
Deux. au moins deux fois des avis de recherche là, à rechercher cette personne-là, puis on disait, l'histoire, on la savait, là.
OK.
Parce qu'il fallait le retrouver.
On savait que c'était ce jeune homme-là qui était allé aider là, en renfort à Lac-Mégantic, puis à partir de ce moment-là.
Je suis à terre, là, excuse-moi, je viens de tomber.
Et à ce moment-là, on savait qu'il était dangereux pour lui-même, c'est ça?
Oui.
OK, pas pour les autres nécessairement.
Non.
Tout nu, c'est assez plus difficile.
Je connais du monde tout nu qui sont dangereux pour les autres, mais.
Ah oui?
Je suis pas certain que c'est là-dedans que tu voulais aller.